17 octobre 1806, 17 octobre 1976, il y a 170 ans, tombait sous les balles assassines l'empereur Jean-Jacques Dessalines le Grand. Une émission d'Haïti Inter consacrée à Jean-Jacques Dessalines à l'occasion du 170e anniversaire de sa mort. Émission d'information, certes, de documentation aussi, émission du souvenir, bien entendu, mais émission qui nous permettra un œil critique sur une époque, sur un homme, sur une politique. En 1931, le président Stenio Vincent, commémorant lui aussi le 125e anniversaire de la mort de l'empereur, s'adressait ainsi à ses concitoyens et dessinait en quelque sorte la silhouette de notre fondateur. Il y a 125 ans, sous des balles haïtiennes, un homme tombait, victime de cette horrible convulsion politique de 1806 qui a ouvert, hélas, dans ce pays, l'ère à jamais maudite des agitations perpétuelles et de ces tueries répétées qui font de presque chaque page de notre histoire un tableau de misère, de ruines et de sang. Et quel homme ! C'était celui-là même qui venait de créer la patrie haïtienne. Celui qui, de l'abjection où croupissaient depuis 3 siècles les ancêtres martyrs, les avait élevés à l'humanité par le fer et par le feu. Cet homme est unique. La haine l'a presque déifié. La vengeance l'a grandi. Haine faite d'amour. Vengeance faite de justice nécessaire. Mais l'histoire est venue. L'histoire est chose humaine. Du moment que Dessalines y était entré, la fonction critique de l'historien devait s'exercer sur ce héros. Son œuvre a été appréciée et jugée. Et le peuple admire sans réserve. Il a fait de l'homme un symbole. Symbole de foi et d'espérance. Symbole des gloires du passé. Symbole de la grande œuvre destructrice du régime esclavagiste. Il est bon qu'il en soit ainsi, et que ce sentiment utile l'emporte quelquefois sur la grave raison historique, méticuleuse et froide. Dessalines le Grand est un bloc.
Soleil levé, c'est la journée qui tournait. Chrétien nouillé, n'a dit merci bon Dieu. La nuit allée, mes lumières pour nous éclairent. Ensemble nous réjouissons, ah oui non.
Il est temps pour nous de nous interroger. Qui était cet homme? Qui était ce géant? Témoignage, Saint-Victor Jean-Baptiste, l'idéal de la liberté, le plus grand de tous, le vengeur de la race noire, le fondateur de l'indépendance, l'impérator. Celui pour qui la liberté ne pouvait être que totale. La liberté ne pouvait être que l'indépendance politique. Jean Brière. Mais cet homme ne fut pas seulement grand. Il fut extraordinaire. Tous les mots me paraissent froids, mesquins, les épithètes dans la langue que j'écris, et je me demande souvent si les seules sonorités qui conviennent pour parler de lui ne se trouve pas dans les dialectes et le parler haché du continent africain. Il fut, dit Jean Brière, un illettré. Je réponds que les lettres des mots liberté ou la mort suffisaient à sa culture qui transcende toutes les bibliothèques et toutes les éloquences. Autre témoignage. Dessalines se fortifia dans la conviction qu'un acte aussi grand ne pourrait jamais s'accomplir avec la participation des éléments de l'oppression de sa race. Léon Lalot pense « Dessalines possède aussi la fougue qu'il faut pour incruster dans la conscience rugueuse de ses ilotes, en instance de citoyenneté, le sens de leurs obligations présentes, le sentiment de leurs devoirs de demain. » René Salomon, un génie intégralement national, un citoyen moyen réfractaire à tout apport trop brusque de civilisation exotique, un homme de cette masse du milieu de laquelle il vécut heureux jusqu'à son dernier soupir, Un homme qui est compétent pour tout ce qui a trait à son pays, génialement intuitif et visionnaire, qui n'eut pas de peine à s'identifier à la nation même, à maintenir en pleine crise sa prospérité et son indépendance, à faire de sa fierté à lui une fierté nationale.
Né le 20 septembre de l'année 1758 sur l'habitation Cormier à la Grande Rivière du Nord, il grandit dans la servitude et subit comme eux les rigueurs du régime colonial. Le cœur de l'homme fut aigri et ses fibres psychiques vibrèrent et montèrent à l'octave de sa haine. À la révolte générale des esclaves, il est au premier rang de ceux qui affrontent la mort pour la liberté. Il s'adjoint à Toussaint pour assurer le triomphe de la cause de la République. Par son énergie et sa bravoure, par son aversion contre le système de l'exploitation, il se signale à l'attention de ses chefs hiérarchiques. De capitaine, il est nommé chef de bataillon en octobre 1794 par le gouverneur Lavaux. Et son ascension commence. En 1795, il reçoit son brevet de colonel et est intégré dans la 4e demi-brigade. 2 ans plus tard, en 1797, il est promu général de brigade et le 30 août 1800, en l'église paroissiale de Lérogane, il est élevé par Toussaint Louverture au grade de général de division. Ayant combattu avec intelligence et acharnement les Anglais dont les chefs voulaient le maintien du statu quo colonial, il aida ainsi à consolider la position de leader noir, le génial Toussaint Louverture. Immense par sa haine de la haine, il représente, selon Madiou, le principe incarné de l'indépendance et fut barbare contre la barbarie coloniale.
Il n'est pas nécessaire, croyons-nous, de le montrer dans la nuit du 13 au 14 octobre 1803, transfiguré à la pensée de créer une patrie, donnant la collade à Pétion au haut du Cap et ralliant par ainsi les affranchis. Dessalines, dans la contemplation de son œuvre héroïque et sublime, fit jurer à tous les patriotes qui avaient pris la résolution ultime de s'ensevelir sous les ruines de la colonie, de ne jamais trahir la cause de leur race. Il combattit les Congos qui s'étaient emparés des quartiers de la Grande Rivière du Nord, du bourg de la Marmelade, de celui de Dondon, et qui avaient arboré le tricolore français. Étaient du nombre les Silas, les Lamondérances, les Petits Noël Prieurs, dont l'action néfaste désagrégeait l'unité de commandement et retardait la marche progressiste vers l'indépendance. Point n'est besoin de le représenter au milieu de son état-major, où il incarnait à cette minute solennelle toute la fierté de sa race, pour répondre au général Lavalette, qui signait la capitulation de Port-au-Prince après 13 jours de siège. « Général, je vous donne la garantie que des représailles ne seront point exercées contre la population civile. D'ailleurs, nos soldats qui luttent pour la liberté ne travaillent qu'à la faire triompher définitivement sur la terre de Saint-Domingue. » N'est-il pas un prédestiné, celui qui fut choisi par les génies de la race, pour accomplir un acte aussi grandiose et aussi éclatant?
Cet homme, nous dit le docteur Charlier, qui émerge des masses de Saint-Domingue en lutte pour leur émancipation, est l'un des destins les plus hauts de l'histoire. Les Spartacus noirs prédits par l'abbé Rénal, mais en beaucoup plus grand, en beaucoup plus important dans la trame des luttes humaines d'émancipation que le modèle antique, puisque si Dessalines mena lui aussi une révolte d'esclaves, il la mena par contre à une issue victorieuse, la première fois, et l'unique dans les annales du monde.
Dessalines eut un rêve grandiose, faire d'Haïti le boulevard de la liberté. Il lui donna également une vocation, la vocation de la liberté.
Non, combite d'Haïti, Thomas, toujours que son bac à plaque compas.
Grâce à l'Ica blague, chante mon yon soulagé.
Cigale qui maîtresse chantelle, pas qu'on en y ait passé chanter. Contre vos ou bien les fidèles, a fait chanter sans rêver. Comment ces envies n'y rivaient, les pagues même y ont bien petit mousse. Pauvre la cigale, la
La révolution était la raison de vivre de Dessalines. et l'indépendance le dynamo de son action. Sa conception de la révolution n'était frottée d'aucun intellectualisme, nous dit Edner Brutus. Elle ne partait pas du dehors, d'aucune considération ou d'aucun spectacle extérieur à lui. Elle était œuvre de sa chair, car au contraire de Toussaint Louverture, qui jamais ne connut l'exténuation des ateliers ou la lanière plombée du commandeur, le corps de Dessalines et son existence étaient les sources premières de sa détestation du français. Analphabète, il ne connaissait rien à l'encontre de l'ouverture, des commentaires de César, de l'histoire des révolutions d'Angleterre et de l'Espagne, par d'Orléans. Il n'avait jamais ouvert les mémoires militaires et politiques de Lloyd, ni les rêveries militaires du maréchal de Saxe, ni lu aucune ligne de De Clézon, de Plutarque ou de l'abbé Rénal. Sa conception de la révolution ne s'alourdissait pas du tout de cela, qui certes apprend à imiter et donne le goût de la gloire, mais qui aussi enseigne à douter. Sa révolution était une protestation de son physique. Il la concevait en choc physique. Et l'esprit n'intervenait dans sa révolution que pour assurer le triomphe des nouveaux libres dans le combat physique avec les Français. Il était enragé contre l'ouverture, estimant qu'il n'avait pas su, malgré le génie que renfermait sa tête, préparer et coûte que coûte, gagner la dernière phase de ce championnat. Pour un chef révolutionnaire, rien n'est aussi sévèrement accusateur que l'insuccès. Il indique non seulement la faillite de sa méthode, mais il peut entamer la qualité de sa pensée, la pureté de sa doctrine.
Dessalines se plaignait que l'ouverture l'eût trompé. Les Français tendaient l'oreille. Il usait de sa mauvaise humeur contre l'ouverture pour tempérer la mauvaise humeur des Français contre lui ou en retarder l'échéance. D'une vérité, il tirait un mensonge. Il recourait à tous les artifices pour l'accréditer et au mieux des intérêts de sa classe, pour profiter du doute ou du sursis que provoquait son mensonge fondamental, régulateur de sa conduite vis-à-vis des Français.
Aux Français, Dessalines répétait que l'ouverture l'avait trompé et que jamais il ne le lui pardonnerait. Il disait que l'ancien gouverneur lui avait affreusement menti sur les intentions de la France, qu'il l'avait porté à prendre les armes en lui certifiant que le capitaine général avait pour mission de retirer la liberté aux nouveaux libres. Maintenant que les écailles lui étaient tombées des yeux et que, par sa proclamation du 25 avril, Leclerc reconnaissait à Saint-Domingue le droit d'avoir sa propre constitution, il voyait nettement l'égoïsme de l'ouverture. Il déplorait ses extrémités et n'avait plus que l'ambition d'être un loyal serviteur de la mère patrie, la France. Ainsi parlait Dessalines aux Français. Ainsi écoutaient les Français. Mais était-il dupe ? Dessalines, non dit plus loin Edner Brutus, était au point qui causa la mort de Moïse. À lui aussi, l'homme semblait dépassé. Pour lui aussi, l'ouverture était déjà le passé. D'autant plus que le passé n'était pas seulement une affaire de temps. À son entendement, il ne restait de l'homme de Bréda qu'un grand nom sonore et beaucoup de gloire. Certes, il était désormais démuni de la puissance active, mais il en avait une autre, inaccessible et plus dangereuse, celle d'un symbole. Malgré les erreurs et la catastrophe de sa reddition, Toussaint demeurait le symbole de la liberté de sa classe. Et tant qu'il sera dans Saint-Domingue, la classe des nouveaux libres n'aura jamais l'unité autour du symbole que lui, Dessalines, avait choisi d'être, le symbole de l'indépendance.
Brusquement, Leclerc appelait Dessalines au cap. C'était leur première rencontre. Depuis ce 12 mai 1802, où le dernier avec Belair, il s'était soumis.
Leclerc abordait Dessalines et, le fouillant des yeux, lui déclarait sa décision de déporter l'ouverture. Dessalines acquiesçait et crânement confirmait ses rapports sur l'état de trouble entretenu par l'ancien gouverneur. Ce dialogue était au fond un monologue, car chacun des interlocuteurs poursuivait ses propres fins. Dessalines profitait de l'occasion pour accuser l'ouverture de l'avoir incité à la révolte. Il soutenait qu'il avait voulu rentrer dans la légalité après la proclamation du 25 avril, mais que l'ouverture l'en avait dissuadé. Il avançait que maintenant, il comprenait que l'ouverture l'avait dressé en épouvantail pour négocier sur son dos, et qu'après la soumission, il avait poussé l'impudence jusqu'à lui conseiller d'être prêt à toute éventualité, parce que cette soumission n'était qu'un intermède. Dessalines débitait ses accusations froidement, méthodiquement, en homme conscient de ses responsabilités, ne connaissant que sa classe, ne balançant pas devant les moyens, n'ayant cure des sentimentaux égarés dans l'histoire. Il expliquait que devant l'abandon de ses officiers perçant son égoïsme et ses mensonges, l'ouverture s'était rabattue sur les marrons, qu'il en était le grand animateur occulte.
Et il concluait que le repos de Saint-Domingue exigeait l'éloignement de l'ouverture.
L'éloignement de l'ouverture, mais aussi, pour plaire aux Français, la lutte contre les marrons. Dessalines combattait le marronnage et s'en trouvait un des plus farouches animateurs. Il était le grand marron, au mi-temps du monde français. Il se servait du désarmement pour purger sa classe, éliminer les tièdes, supprimer les traîtres, liquider des ennemis personnels. Il avait abordé la bande de Sylla avec frénésie, car Sylla, très fier, n'était nullement prêt à baisser pavillon devant lui, Dessalines. Il ne l'avait pas amené devant l'ouverture. Véritable seigneur du marronnage, il se croyait le taille à l'unifier pour réaliser l'indépendance. D'autres, comme Sylla, avaient cette grande ambition. Dessalines voyait en eux des concurrents. Ils s'acharnaient contre eux, et avec brutalité, ils désarmaient les cultivateurs qui penchaient vers eux. Ce n'était pas toujours le cas, et quand ce n'était pas le cas, il agissait avec la même froide cruauté. Alors, de bons et loyaux marrons tombaient, parce qu'à Leclerc, il fallait son tas matinal de cadavres, de fusils brisés. Et cela d'autant plus que Leclerc, toujours méfiant, prenait ses précautions. Leclerc écrivait au premier consul. « Les généraux noirs conduisent les colonnes. Ils sont bien entourés. Je leur ai donné l'ordre de faire des exemples terribles. Et je les utilise toujours quand j'ai quelque chose de terrible à faire. » Autant longtemps, c'était merveille. La terre d'ici t'avait brûlé. Marie-Jeanne Belle maniait le sabre. Et ses baisers, c'était du feu. Mais tout partout, dessus la crête, je vous le dis, c'était du feu. Rassemblez-vous, approchez tous. Je vous le dis, c'était du feu. Mon peuple à moi marchait pieds nus. Mon peuple à moi mangeait du plomb. Ah, c'est passé, vraiment passé, ce temps longtemps des carabines. Tambour battait la générale, c'était le temps des grenadiers. Clairon sonnait la générale, c'était le temps des boulets rouges. Drapeaux en tête, chevaux en tête, je vous le dis, c'était du feu. Autant longtemps, ah, ces merveilles, la terre d'ici t'avait brûlé. De la Torselle à la Gosseline, je vous le dis, c'était du feu. Du sang coulait dans les ravines. Jacques le Fort marchait en tête. Mon peuple à moi prenait les villes, c'était le temps des baïonnettes.
Ceux qui luttaient des semaines entières pour forcer Port-au-Prince ou monter à Vertières, ceux qui, traînant les lourds canons sur le pavé, chantaient au cap « Le jour de gloire est arrivé ». Ils l'ont vu se lever ce jour aux Gonaïves. On a senti passer sur les âmes naïves, en ce 1er janvier de fête et de repos, la bénédiction de Dieu sur nos drapeaux. Mais dans 2 ans, nous renierons notre épopée. La gloire que l'envie et la haine ont sapé, va se trouver insuffisante à protéger l'empereur, à présent dédoré du danger. Avant 2 ans, nous en aurons l'âme engourdie, nous oublierons, et ce sera la tragédie, l'horrible tragédie où la mort s'égara dans un vil guet-apens, le Pont Rouge, Gara.
8 octobre 1804, dans l'église du Cap-Haïtien, Dessalines est couronné empereur. Devant les troupes et le peuple, assemblés sur la place d'armes.
Thank you.
Dessalines était loin d'être un administrateur médiocre. Il avait des idées très nettes, des vues précises sur la gestion de la chose publique. Collaborateur de Toussaint Louverture, tant sur le plan de la guerre que celui de la paix, Dessalines avait acquis de solides connaissances qui l'empêchaient de tomber dans les erreurs des chefs improvisés pour avoir fait un long apprentissage du pouvoir avec le précurseur de notre indépendance. Du reste, il n'est que de considérer les actes qu'il a posés bien avant la fondation de la patrie, à la lueur des torches victorieuses, quand déjà il bâtissait le plan d'organisation sociale, politique et économique du nouvel État. Les mesures énergiques et rationnelles qui transformèrent selon les exigences de la nouvelle société le cadre du gouvernement civil, son œuvre législative, sa politique financière, son système économique, favorisant le libre-échange, sa position doctrinale vis-à-vis des autres États, pour renverser la pyramide d'erreurs et de mensonges accumulée depuis lors. Mais en son temps, un état de prospérité que connut le pays durant les 33 mois du règne du fondateur n'a pas été l'œuvre du pur hasard. Il découle de l'ensemble des directives imprimées aux affaires de l'État en vue de consolider les bases de l'édifice national. Protection accordée aux ressortissants des États neutres et amis qui entretiennent des relations commerciales avec le pays, libéralisme économique sur la base du troc, application rigoureuse des éléments de culture pour rendre le travail obligatoire, loi protégeant le commerce national, décision interdisant le vagabondage, l'oisiveté et punissant le vol, celle faisant défense sous peine de mort aux indigènes de sortir du pays, décret du 1er août 1805 sur les droits d'exportation et établissement le cautionnement, décret du 30 août 1805 réglant les tarifs des frais de justice, les honoraires et vacations des notaires et officiers d'état civil, tarifs des droits curiaux, frais d'impression ainsi que le montant de l'écolage et des pensions institués par les particuliers, décret du 6 septembre 1805 prescrivant l'ordre suivant lequel les négociants consignataires devaient recevoir les marchandises importées et fixant leurs responsabilités. Train de loi, train de décret, train de mesure qui nous donne la mesure du chef qu'était Jean-Jacques Dessalines, administrateur. Était-ce ici la monnaie en cours sous l'Empire?
La monnaie en cours était la livre, la gourde et la piastre espagnole avec sa division et ses subdivisions. Ainsi, la livre valait 20 sous, le sou 12 deniers et l'escalin 15 sous. La gourde avait une valeur de 8 livres, 5 sols. Le doublon, un sou multiple, une demi-gourde ou deux gourdins, la portugaise un quart de gourde ou un gourdin. La piastre valait 8 livres ou 165 sous. L'unité monétaire des États qui entretenaient des relations commerciales avec le pays était admise dans la circulation au taux du change avec les autres devises.
Voilà qui est bien compliqué, mais on arrivait à débroussailler le maquis des devises et des monnaies sous l'empereur. Car, avec la création d'ordres administratifs de l'État, les bases financières de l'organisation, grâce à l'accroissement des échanges, trouvèrent des assises solides qui permettront au pays de se développer rapidement. Le commerce, en effet, a pris de l'extension. Les ports haïtiens, visités presque chaque semaine par des navires de nationalité anglaise, américaine, danoise, suédoise, allemande, y apportent tous les produits manufacturés, tels les tissus de laine, de coton, de soie, dont la population avait un constant besoin. En retour, ils exportent le café, qu'ils achètent à raison de 12 piastres les 100 livres, ou 20 sous la livre, et plus tard, jusqu'à 25 ou 26 sous. Le coton à raison de 14 gourdes les 100 livres, le cacao à 15 ou 16 sous la livre, le sucre brut à 7 ou 8 gourdes les 100 livres, le sucre terré, 18 gourdes les 100 livres, vers mai 1805, et le campeche, 13 ou 14 gourdes le millier. Mais avec le sucre et le campeche, nous abordons un domaine, je ne dirais réservé, mais peut-être
explosif. Voyons un peu à présent comment se passent les choses du haut en bas de la pyramide sociale, car la pyramide s'est reconstituée. Alors, l'empereur pense-t-il aussi à la base ?
Le besoin d'améliorer le sort de la classe laborieuse des campagnes s'est manifesté avec la dernière évidence dans l'arrêté du 9 avril qui détermine le plan d'action sociale du gouvernement.
Il est expressément défendu aux officiers, édicte l'arrêté du 9 avril de Dessalines, de s'associer avec les cultivateurs des habitations. Cette prohibition tendait à enrayer le régime d'exploitation dont on avait tant souffert à l'époque coloniale. Elle extériorise la volonté du gouvernement de donner un statut nouveau aux paysans en rapport avec les idéaux de la Révolution, dont ils venaient par leur courage d'assurer le triomphe.
Car l'expérience lui avait démontré qu'un élément de l'armée active qui détient une parcelle de la puissance publique aurait toujours tendance, par une sorte de déformation, à brimer son co-associé, à exercer sur sa personne ou sur ses proches une pression morale ou physique pour s'approprier la plus grande part des revenus.
D'autre part, la discipline indispensable à garantir la force morale, la puissance combative des demi-brigades, s'en ressentirait grandement, vu que l'officier pouvait se trouver dans l'obligation de sacrifier ses devoirs militaires. Nous avons énuméré les pavillons des navires qui accostaient Haïti à l'époque. Cela répond-il à une politique générale du commerce extérieur, une politique économique de Dessalines ? Certes.
Avant même la proclamation officielle de l'indépendance nationale le 1er janvier 1804, Dessalines, bien imbu de ses devoirs de chef responsable, avait jeté les bases économiques et financières du nouvel État en déléguant aux États-Unis l'ancien agent de Toussaint Louverture,
Joseph Bunel, commissaire de la Révolution. Bunel avait la mission spéciale de déclencher en faveur d'Haïti un mouvement commercial qui faciliterait ses négociations avec la République étoilée tout en créant un climat favorable à la reconnaissance de la nation. Grâce à de solides amitiés qu'il possédait dans les hautes sphères de la politique, de la finance et du commerce, Bunel parvint aisément à intéresser les hommes d'affaires qui déjà étaient en quête de nouveaux débouchés pour l'écoulement de leurs produits.
Le peuple américain, qui lui aussi venait de verser son sang sur les champs de bataille de la liberté, s'enthousiasma au récit des prouesses héroïques de la grande épopée et accueillit avec sympathie les démarches du commissaire.
Aussi n'attendit-il pas les résultats des pourparlers avec les organismes compétents de l'État pour converger toutes ses activités vers les rives hospitalières de la Nouvelle-Haïti. De l'administration, des finances, de la politique, de l'organisation, des règlements, arrêtés, décrets, lois. Non, il arrivait, fort souvent parfois, dit-on, à l'empereur de danser, ma chère. Il arrivait à l'empereur de danser le carabinier. Et il advint des anecdotes fort savoureuses, telles que celle-ci, contée par Saint-Victor Jean-Baptiste dans son livre « Le fondateur devant l'histoire ». C'est au cours d'un de ces bals que Christophe, sur un ton sévère, eut affaire à l'entendement d'un général qui se tenait non loin de lui, cette réflexion. « Voyez, Sa Majesté, n'est-il pas honteux que nous ayons à notre tête un tel sauteur ? » Que s'était-il passé ? Dessalines, en effet, dansant le carabinier, et ce carabinier s'appelait l'empereur Vinouet Couloud Dansé, avait fait un bond et s'était presque étendu au pied de sa partenaire. Quand il fut mis au courant de ces paroles, analogues à celles qui avaient été prononcées par Pétion le 1er janvier 1805, l'empereur s'écria plein de colère. « Je n'ignore pas les paroles de M. Christophe. Il croit sans doute que sa ferrière peut le mettre à l'abri de mes coups. Eh bien, je le couvrirai d'honneur. Je le laisserai grandir. Qu'il se soulève, mon bras sera assez long pour l'atteindre partout. » L'empereur ne dansait pas seulement sous les lambris des palais fastueux de l'ancienne capitale domingoise. Fort souvent, il se trouvait aussi dans les salons port-au-princiens, tel ce voyage effectué à Port-au-Prince pour préparer un événement qu'il aurait voulu heureux. Mais il rencontra son compère Pétion. Au cours de cette rencontre, le général Pétion et quelques-uns de ses intimes ont été invités à passer dans les appartements privés de l'empereur.
Là, l'empereur leur parla, en manière de préambule, de l'union qui doit exister entre le noir et le jaune. Il fit ressortir que c'était une nécessité vitale pour l'Empire et qu'il souhaiterait voir, par la fusion des deux groupes ethniques, le peuple haïtien devenir bronze.
Non, bronzé, Jessie. L'union du noir et du jaune, continuait Dessalines, protégerait la nationalité haïtienne et faciliterait l'évolution du pays. Je veux favoriser de tout mon pouvoir ces alliances dans ma propre famille, en offrant au divisionnaire Pétion la main de la princesse Célimène. Déconcerté, puisqu'il n'avait pas d'inclination pour les unions matrimoniales, tout le monde savait que Pétion était un célibataire endurci, et bien au courant des aventures amoureuses d'un des officiers d'état-major de l'empereur, le capitaine Bernard Chancy, avec la princesse Célimène, le général Pétion éprouva de la peine et de la gêne à répondre à son empereur. Il finit par lui dire qu'il ne se sentait aucune vocation pour le mariage, que sa conception philosophique de la vie ne s'accommodait pas avec les obligations que crée cette institution. Il ne faut pas oublier que Pétion était un franc-maçon. Alors il mettait la franc-maçonnerie en avant pour esquiver la question du mariage. L'empereur, en l'invitant à réfléchir sur les raisons profondes qui ont motivé cette démarche patriotique, abandonna le salon, la douleur dans l'âme. Douleur de voir s'évanouir le rêve qu'il avait caressé, le plus grand idéal politique de sa carrière d'homme public, et celle non moins grande, de penser à l'écroulement de son projet de s'attacher, par des liens de sang, le divisionnaire de l'Ouest, à l'Empire d'Haïti, Alexandre Pétion. Dessalines, nous dit Madiou, qui était entré à Port-au-Prince sous de si bonnes influences, était redevenu sombre et agité. Il se montrait préoccupé de la correspondance qui existait entre Christophe et Geffrard. Il disait qu'on travaillait de toutes parts à sa ruine, qu'on ne le secondait pas, que chacun s'efforçait d'obtenir des richesses par n'importe quel moyen, que l'Empire ressemblait à une ville prise d'assaut et livrée au pillage, et livrée aux danseurs. Inquiétudes politiques, soucis matrimoniaux, mais il y eut aussi dans l'esprit de l'empereur quelques nuages, quelques sombres pressentiments et puis des malheurs de famille.
La fin de l'année 1805 ne s'annonçait guère sous de brillants auspices pour le monarque. Plus douloureux et plus cruel que le deuil, le déshonneur flétrissait sa maison. Séduite par un officier de son armée, le capitaine Chancy, neveu de Toussaint Louverture, la princesse Célimène attendait un enfant en dehors des liens conjugaux. La nouvelle fit le tour des salons et de l'Empire. Et quand elle parvint à la connaissance du souverain, elle tortura son esprit et son cœur, l'exaspéra à un point tel qu'il ne put se résoudre à prendre une décision. Devrait-il faire mourir la princesse pour qu'elle expie sa faute? Enverrait-il au dernier supplice ce téméraire officier qui osait outrager son foyer? Un descendant de Toussaint d'Ouverture? Ce fut un véritable drame familial où l'impératrice usa de son extrême bonté pour calmer le juste courroux de son impérial époux dans le but d'empêcher un dénouement fatal.
Le dénouement, on le sait. Dessalines demanda au colonel Daran et au chef d'escadron Prophète de convoquer sur le champ le capitaine Chancy dans sa capitale impériale. Mais Chancy, auparavant, tout le monde le sait, reçut dans les cachots de la prison de Port-au-Prince le pistolet personnel de son chef, le général Pétion, et avant d'affronter le courroux de l'empereur, il mit lui-même fin à ses jours. Faste, intrigue, tripotage, histoire louche, histoire drôle, mais cela ne détournait pas l'empereur de ses devoirs de chef, d'organisateur. L'organisation de la culture fut un souci majeur pour Jean-Jacques Dessalines. L'organisation de la culture qui devait permettre la production, la grande production, et donner à Haïti le même lustre, la même richesse que l'ancienne Saint-Domingue.
Les gens qui abandonnaient les campagnes étaient susceptibles de fomenter des troubles sociaux ou de s'évader du pays par la crainte des faux bruits que les malveillants répandent, notamment dans la ville du Cap. Des commissaires d'Islay furent nommés dans chaque ville qui s'occuperaient de ces individus et fixeraient les moyens d'existence, les noms, prénoms, âge, profession, domicile et lieu de naissance de chacun des habitants de ces villes. Ce recensement serait contrôlé par le commandant de l'arrondissement. Quant aux domestiques, cet arrêté tend à en diminuer le nombre et à renvoyer le surplus à la culture. Dessalines voulait détruire ce vestige du régime colonial qui consistait à entretenir un grand nombre de domestiques.
Que Dessalines eût renvoyé à la culture des gens qui résidaient sans état dans les villes, voilà une mesure qui avait déjà pris depuis Saint-Domingue un caractère traditionnel. La culture était en baisse du fait de la guerre. Il fallait la restaurer. Et pour la restaurer, le décongestionnement des villes n'était-il pas nécessaire? C'est ainsi que le comprit Dessalines, qui considérait comme très dangereux ceux qui, habitant les villes, n'avaient pas de quoi s'occuper. Et c'est ainsi que nous compte l'histoire de l'organisation de la culture, l'historien Enoch Trouillot dans son Dessalines ou la tragédie post-coloniale.
La correspondance de Christophe au sujet de ce va-et-vient de certains individus dans la division militaire où il commandait donne raison à Dessalines. Ces gens suscitaient, au moins dans le Nord, un état de désordre auquel il importait de remédier. Beaucoup des lettres de Christophe mentionnent des évasions de prisonniers, de marins, de cultivateurs, d'ouvriers, de soldats. Il y eut un état d'inquiétude dont étaient responsables les hommes du général Ferrand et des défaitistes qui se trouvaient à l'intérieur même du pays. Après l'indépendance, la situation, surtout dans le Nord, était moins stable que ne le disent les historiens. Cette rentrée des cultivateurs sur les habitations, c'est la hantise de Dessalines. Christophe promet de l'aider de son mieux. Il approuve fermement les mesures de l'empereur.
L'arrestation des soldats qui s'absentent sans permission, l'arrestation des cultivateurs et des cultivatrices qui abandonnent les plantations, l'annulation des petites propriétés qui ne sont pas valables ou des morceaux de terre que l'on cultive en deux moitiés avec les fermiers, tout cela préoccupe au premier plan le général Christophe, fidèle collaborateur de l'empereur.
L'oisiveté était regardée comme un crime, dit Malot, mais on ne la punissait que de l'emprisonnement. Et pour changer de plantation, le cultivateur devait être autorisé pour des motifs raisonnables par le commissaire ou l'officier qui commandait dans le district.
C'était le vœu de la loi. On a évoqué bien des traits de cruauté de Dessalines, nous dit Enoch Trouillot, surtout lorsque sous Toussaint, il organisait la culture. Malot a révélé avec plaisir quelques-uns de ces traits, dont plusieurs tiennent plutôt de la légende. mais les Haïtiens les ont tenus aux dépens de celui que ce colon appelle un sans-culotte ou un tigre noir, dans le but évident de prouver que le régime colonial était meilleur que ceux de Toussaint et de Dessalines.
Il faut compter, à vrai dire, avec les mœurs rudes, brutales de l'époque, et noter que la plupart se comportaient comme Dessalines. Des prostituées, négresses, mulâtresses et quatronnes, emplissaient les villes après l'indépendance. Triste legs colonial. Dessalines les réunit et leur fit couper les cheveux et la queue de leur robe, qui était d'une longueur extraordinaire. Au fond, Dessalines, à ses heures perdues, était un facétieux. À cette scène, personne n'osait rire, et il fut ordonné à ses gracieuses personnes de regagner les habitations où, avant la guerre, elles travaillaient.
C'était une époque de violence. En témoigne, sur un autre plan, quelle boucherie l'on faisait dans les rues en abattant sans raison des animaux.
Le fouet, ce n'était pas que Dessalines qui l'employait, c'était tous les hommes au pouvoir, tous les commandants militaires. Quant aux cultivateurs, on continua à les fouetter comme avant la liberté générale. C'était en somme la coutume, et Giffrard, à l'égal de Germain, frère ou d'un autre, noir ou mulâtre, l'employait plus ou moins. Cela sentait un relent de féodalisme, mais c'était cela, et peu d'hommes semblaient désapprouver cette coutume issue du tréfonds de la vie coloniale et que l'indépendance n'avait pas abolie.
Alors résumons-nous. Il y avait l'abolition de la petite propriété sous Christophe, le maintien des domaines, l'interdiction de vagabondage, la récupération des vagabonds pour la culture. Il y avait aussi le fouet, la discipline, la grande discipline qui fait la force des pays producteurs.
Cousine, oui, c'est ça, m'te dis. Moi, te dis ou qu'on ça, tout que moi, c'est pour m'a marié avec vous. Tous les jours, m'a songé.
L'économie sous Dessalines, c'est René Salomon qui nous l'évoque à présent dans un article paru il y a longtemps dans Optique, revue littéraire et culturelle d'Haïti.
Dès son avènement au pouvoir, Dessalines concentra ses efforts sur la production et maintient le système de plantation, sans morcellement inutile et anti-économique du sol. 20% de plaine, 80% de montagne, un sol essentiellement poreux, telle est la configuration du pays dévasté qu'il faut gouverner par l'esprit et rendre prospère par la compétence.
Produire, un mot qui est tout un programme technique, parce qu'il est à la fois une nécessité économique et un aboutissement national. Dessalines lui donna le pas sur la politique. Et comme il lui fallait tout organiser, comme se le devait le premier gouvernement d'un pays ravagé par la révolution libératrice, il ne fit pas beaucoup de théories, ni de brillants discours sur l'administration. Il était illettré, mais génial, ignorant, mais de bonne foi, compétent pour tout ce qui est nécessaire au bien-être national, non intellectuel, mais intuitif.
Pour lui, il n'existait que deux catégories de citoyens, les producteurs de richesses agricoles et les soldats. La troisième catégorie était des chefs et employés d'administration, trop peu nombreux pour former un troisième groupe.
La valeur de l'homme était mesurée à ce qu'il pouvait produire uniquement. La condition humaine, voisine du servage, n'en différait que par la rétribution du travail fourni.
La similitude entre la condition passée de l'esclave et celle du cultivateur d'alors était manifeste et claire.
Le conflit était inévitable. Il naquit.
Dessalines dut renforcer la discipline sporadiquement rompue par la violence de l'armée qui, comme on le conçoit bien, échoua dans ses tentatives d'obliger ses nouveaux libres à produire par force ce service public que Dessalines croyait devoir imposer par la force.
Comme plus tard Antoine Simon, Dessalines, nous dit René Salomon dans cet article, remit aux hommes les plus instruits d'alors, les anciens affranchis, le soin de créer l'administration publique et spécialement le service des domaines, où se trouvait la production à maintenir et la prospérité coloniale à sauvegarder et à préserver.
Dessalines organisa cependant des comptoirs de vente, en confia la surveillance aux officiers qui devaient, dans l'éventualité d'un retour offensif des Français, les défendre militairement au même titre que le sol même.
C'était là la force des choses d'alors. La ligne économique était donc complète, les civils assurant l'administration, la production des richesses, les militaires garantissant la sécurité du travail et du négoce, et enfin l'étranger offrant les débouchés.